Nous célébrons donc ce deuxième dimanche de l'Avent, dimanche Gaudete, dimanche de la joie. Donc au milieu du temps de l'Avent, nous sommes particulièrement invités à la joie. Alors cette invitation à la joie traverse, vous l'avez entendu, toute la liturgie de ce dimanche. Le prophète Isaïe s'exclame « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en Dieu, mon Sauveur. Il m'a revêtu des vêtements du salut. » Et cette exultation a lieu alors que le peuple d'Israël et la ville de Jérusalem sont traversés par le découragement. Et dans la seconde lecture, saint Paul invite les Thessaloniciens « Frères, soyez toujours dans la joie. » Priez sans relâche, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Et cet appel à la joie est comme synthétisé ou concentré dans l'exclamation, l'exultation du Magnificat de Marie que nous avons chanté. « Mon âme exulte le Seigneur, exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon Sauveur. » Car il s'est penché sur son humble servante. Alors comment avoir l'audace d'appeler à la joie alors que nous sommes en période qu'on peut qualifier de difficile, dans un monde traversé par l'angoisse et la violence, où tout semble parfois se détruire, où toutes les raisons sont là parfois pour ne pas être joyeux. Alors de quelle joie s'agit-il? Vous le savez, il s'agit de la joie du salut. La joie d'être sauvé, la joie parce que Dieu n'abandonne pas l'humanité. La joie qui vient de l'assurance que par la mort, par sa mort et sa résurrection, la mort n'est pas le dernier mot sur l'existence, que l'amour est plus fort que la haine, que le pardon est possible, que la miséricorde est accordée à l'humanité et à tous ceux, tout homme qui reconnaît qu'il est pauvre et pécheur. La joie qui naît de la certitude que chacun de nous est définitivement aimé et que quel que soit ce qui peut nous arriver, nous savons que nous sommes attendu par cet amour infini. Cette joie n'est pas celle qui, vous le savez, nous est habituellement proposée autour de nous. Nous sommes dans une culture qui en réalité n'est pas joyeuse. Et vous le savez, on confond très souvent divertissement et joie. Un monde du divertissement, mais parfois tellement superficiel qu'en réalité, il cache une profonde tristesse. Le pape François l'exprime de manière que je trouve remarquable. Il dit « Notre joie n'est pas une joie qui naît du fait de posséder de nombreuses choses, mais elle naît du fait de savoir ou d'avoir rencontré une personne, Jésus, qui est parmi nous. Elle naît du fait de savoir que nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments difficiles, même quand le chemin de la vie se heurte à des problèmes et des obstacles qui semblent insurmontables. Alors prions que nous soit accordée cette joie. » Je vous cite encore saint Jean Chrysostome qui dit « Que personne ne se lamente de sa pauvreté, car le royaume de Dieu est tout proche. Que personne ne se plaigne de ses péchés, car le pardon a jailli du tombeau. Que personne ne se plaigne ou ne craigne la mort, car la mort du Sauveur nous a délivrés. » La joie. Je me suis dit ce matin, mais quel est le secret de cette joie véritable? Celle des martyrs, celle des pauvres, celle des humbles. La joie est le souffle, la manière de s'exprimer du chrétien, le souffle du chrétien. Elle n'est pas une chose qu'on achète, elle n'est pas le fruit d'un effort, même si elle peut être le fruit d'un choix. Elle est le fruit de l'Esprit Saint. Et je pense aussi à cette parole connue du prophète Néhémie qui dit « La joie du Seigneur est notre rempart. » Que ce soit vrai pour aujourd'hui, pour nous, pour notre temps. La joie du Seigneur, que la joie du Seigneur soit notre rempart. L'évangile de Saint Jean que nous avons entendu aujourd'hui nous parle ou nous invite plus exactement à regarder la figure de Saint Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous le savez, fils de Zacharie et d'Élisabeth, cousine de Marie, Marie mère de Jésus. Élisabeth était celle qu'on appelait la femme stérile. Et dans son vieil âge, elle va donner naissance à Jean, alors qu'on n'espérait plus rien. Jean-Baptiste est le point d'aboutissement de tout l'Ancien Testament, vous le savez. Et sa mission est de préparer la venue du Seigneur. Et je me permets de retenir ou d'attirer votre attention sur deux dimensions qui caractérisent, me semble-t-il, Jean-Baptiste et qui peuvent aussi peut-être être un chemin pour chacun d'entre nous. La première caractéristique de Jean-Baptiste que je retiens, il y en a sans doute d'autres, c'est son effacement. Son humilité. On l'interroge sur son identité. On envoie de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander « Qui es-tu ?» Et la manière de répondre de Jean à quelque chose d'assez surprenant. Il répond par la négative. « Je ne suis pas le Christ. » Ou encore « Es-tu le prophète ? Es-tu Élie ?» Je ne le suis pas. Es-tu le grand prophète ? Non. Jean ne se définit pas à partir de lui-même, mais en référence à un autre que lui-même. Son identité est centrée sur un autre. Jean dira plus tard, vous le savez, que lui grandisse et que moi, je diminue. Et c'est la source de sa joie quand il dira « Je suis l'ami de l'époux, j'entends sa voix, je suis dans la joie et ma joie est complète. » Déjà au début du passage que nous venons d'entendre, il nous est dit à propos de Jean qu'il est envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Il me semble qu'il y a là quelque chose d'important à entendre pour nous-mêmes. Il n'y a rien chez Jean-Baptiste d'auto-centré. Et vous le savez combien cela est exigeant et difficile. Nous sommes dans un monde du culte du moi qui nous imbibe tous plus ou moins, même sans que nous en rendions compte. Cependant, le chemin de la conversion est justement celui du décentrage de soi et de la charité. Permettez-moi de vous citer un passage étonnant de Benoît XVI. Il dit « Aimer chrétiennement, cela signifie s'engager sur le chemin de Jésus-Christ, opérant ainsi une sorte de conversion copernicienne dans notre propre vie. Car en un sens, en un certain sens, nous vivons tous comme avant Copernic, non seulement parce que nous croyons ce que nous voyons, que le soleil se lève et se couche et tourne autour de la Terre, mais en un sens plus profond, en effet, nous portons en nous cette illusion innée selon laquelle chacun de nous se prend pour le centre du monde, autour duquel doivent tourner le monde et les hommes, et nous devons nous découvrir, tous découvrir, que nous construisons et voyons les choses et les êtres que par rapport à notre moi, les considérant comme des satellites évoluant autour du point central de notre ego. Devenir chrétien est donc très simple et pourtant très bouleversant. C'est précisément opérer cette conversion copernicienne de ne plus se considérer comme le centre du monde. Alors ces propos peuvent nous paraître excessifs et pourtant, c'est bien le chemin que nous devons faire et mettre le Christ au centre et donc le bien de nos frères au centre. C'est le chemin de la véritable joie. Hein, qui perd sa vie la trouve, qui la trouve la perd. Jean, et c'est la seconde considération, se définit comme la voix de celui qui crie dans le désert. Saint Augustin fait un magnifique commentaire à ce propos. Il fait la distinction entre la voix, qui est Jean le Baptiste, et le Verbe, la parole, qui est Jésus. Jean est la voix, Jésus est le Verbe. La voix porte le Verbe, porte la parole. La voix n'est qu'un son qui disparaît. Seule la parole, le Verbe demeure dans le cœur de ceux qui l'ont écouté. La voix transporte le Verbe vers autrui. Hein, le Verbe, dans le prologue de Saint Jean, justement, dit que le Verbe s'est fait chair, qu'il a habité parmi nous. Le Verbe ne peut cheminer dans le monde sans cet outil qu'est la voix. La voix s'efface, le Verbe reste. Ce qui nous retenons, c'est le contenu et cela qui nous transforme notre vie. La personne qui parle est nécessaire, mais elle est peu de choses. L'important, c'est la vérité du contenu de ce qui est dit. Alors nous aussi, nous avons tous à être la voix pour la parole véritable, pour le Verbe de Dieu. Nous avons à parler, mais pas pour dire nos opinions ou nos sentiments qui montent et descendent selon les événements, mais la parole de Dieu, une parole qui n'est pas la nôtre. Et cela suppose, vous le savez, que nous-mêmes nous soyons façonnés, transformés par elle, qu'elle habite en nous. Elle nous a peut-être, en ce sens, ce temps de l'Avent, et je m'arrêterai là, à recevoir de Jean le Baptiste, ces deux attitudes, l'humilité qui consiste à s'effacer ou plus exactement à être centré sur quelqu'un d'autre que nous-mêmes, à ne pas se situer au centre du monde, mais sur celui qui vient. Un chrétien ne se définit pas à partir de lui-même, mais à partir de quelqu'un d'autre qui est le Christ. D'ailleurs, c'est cela que signifie le nom de chrétien. Et nous avons sans doute à être comme Jean-Baptiste, à annoncer la parole, mais nous ne sommes qu'une voix. Et ce que les gens ont à retenir, ce n'est pas notre pensée, aussi brillante soit-elle, ce n'est pas le discours, c'est la parole que nous portons, qui est Jésus, et c'est elle, c'est lui qui doit entrer dans nos cœurs. Je me souviens d'un vieil ami qui me disait, quand il y a un prophète et qu'il parle, demande-toi toujours qui les gens regardent, si c'est le prophète ou si c'est le Christ. Si c'est le prophète, alors que c'est un faux prophète.